internautes, bonjour aux vacanciers qui nous rejoignent. J'aimerais ce matin commencer par dire à notre âme, bénis le Seigneur avant de continuer notre louange. Chantons-le, bénis le Seigneur, ô mon âme.
Bénis le Seigneur, ô mon âme. Oh mon âme,
encore.
Bénis le Seigneur, oh mon âme. Bénis le Seigneur, oh mon âme. Je loue dans la montagne, je loue dans la vallée. Je loue quand j'ai la foi, quand je viens à douter. Je loue quand je suis forte, seul dans le combat. Ma louange est la mer où l'ennemi se noie. Tant que je vivrai, avec foi je crierai paix. Ma louange est une arme, c'est bien plus que des mots. Ma louange est le cri qui détruit Jéricho. Tant que je vivrai, avec foi je crierai.
Et n'oublie aucun de ses bienfaits.
Je loue car tu es Dieu, je loue car tu règnes. Tu as vaincu la mort, tu es sans pareil. Je loue le Dieu fidèle, je loue le vrai Dieu. Nul n'est comme toi sur terre et dans les cieux. Je loue car tu es Dieu, je loue car tu règnes. Tu as vaincu la mort, tu es sans pareil. Je loue le Dieu fidèle, je loue le vrai Dieu.
Chantons-le encore.
dans ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Reprenons-le. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu.
Merci parce que tu es un Dieu bon, fidèle, en tout temps. Que nous soyons up, down, en haut, en bas, tu restes toujours là. Tu es bon. Vraiment, Seigneur, tu es bon. Et nous voulons ensemble, d'un même cœur, te le dire, te le chanter.
Toujours été là pour moi.
jamais, je vous invite à lever la voix avec des actions de reconnaissance, des paroles qui disent merci Seigneur pour ta bonté, merci pour ce que tu nous accordes au quotidien, pour ta présence, merci parce que tu pourvois mes besoins tous les jours, tu es là. Merci, merci, même dans les difficultés, tu nous offres un chemin jusqu'à, tu nous as pas dit, tu enlèves les difficultés, mais tu as dit, tu nous accompagnes, merci pour ta présence. David dit dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible, cette eau intarissable où nous pouvons puiser encore ce matin. Il me redonne des forces, il me conduit dans les sentiers de la justice. Cause de son nom. Merci pour ton nom tout puissant, Seigneur. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Un enfant revient toujours auprès du bon berger, même s'il s'en éloigne, Dieu le ramène vers lui. Oh Seigneur, merci pour ta bonté. Oui, nous voulons être un peuple embrasé pour toi. L'église que ton cœur attend. Seigneur, viens briser nos chaînes. Détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. bénissons, Père, Esprit de Dieu. Viens nous remplir de ta présence. Nous pouvons avoir un temps face à lui maintenant. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, nous ne voulons pas dire cela dans la rapidité, mais en toute bonne et conscience. Car des fois, des situations où tu le permets, il est dur de dire que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Jésus l'a dit, pleinement, volontairement. Il a dit que ta volonté soit faite avant d'être crucifié. L'œuvre de la croix, Père.
Répondre à ce chant qui, je crois, est plus qu'un chant, mais comme un appel ce matin. C'est vraiment la chanter que ton règne viennent sur la terre comme au ciel. Et souvent, on veut ça pour des circonstances extérieures. Mais lorsqu'on prie que ton règne vienne sur la terre comme au ciel, ça commence par nous, par mon cœur, par mes réactions, par mes actions. On fait face à un quotidien, face à des défis, et Jésus nous attend au tournant aussi, qu'on manifeste l'odeur du ciel dans notre quotidien en tant qu'Église de Jésus-Christ en 2025. Alors que les ténèbres sont en train de s'épaissir partout autour de nous, Jésus nous attend au tournant. Et il ne nous a pas laissés sans équipement, mais nous avons la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ce que ce chant veut dire, et j'aimerais qu'on puisse le déclarer ce matin. Vous savez, on est tous face à des choix, parfois à des décisions, parfois peut-être à des tentations, à des combats où on se sent dépassé. L'Esprit de Dieu est à notre portée ce matin. Jésus a déchiré le voile de haut en bas lorsqu'il a donné sa vie à la croix pour que nous ayons accès au ministère du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit veut faire son œuvre, je le crois encore, dans notre Église, dans nos vies personnelles ce matin. Alors est-ce qu'on peut reprendre ça comme une prière ce matin, Esprit de Dieu ? Mais vraiment qu'on le déclare ce matin, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit, pour faire face. J'ai besoin de toi pour incarner, pour être tes pieds, pour que l'orgueil soit brisé, pour que nos cœurs soient embrasés et que nos vies fassent une différence ce matin. Et ceux qui sont d'accord avec ça, je vous invite à vous mettre debout pour chanter ce chant de tout votre cœur.
Sur nous.
Il est digne d'être applaudi, on peut le célébrer. Merci à l'équipe de louange ce matin aussi pour ce temps. Avant de laisser la place à Anne pour la parole de Dieu, j'aimerais juste vous communiquer quelques annonces. Déjà tout d'abord, donc Mathieu et Magali sont en vacances. Donc Mathieu, pasteur principal de l'EPI, sont partis pour quelques jours de repos. Donc on leur souhaite de bonnes vacances s'ils nous suivent sur Internet. Et une autre annonce, vous savez que on a la célébration 2025 qui arrive, normalement le visuel va arriver, donc le samedi 4 octobre, donc à l'initiative du Conseil National des Évangéliques de France, un gros rassemblement sur toute la France des évangéliques qui s'unissent, et pour nous c'est 500 ans d'évangélisme sur la place de Strasbourg. Donc on va fêter ce temps tous ensemble au Palais de la Musique et des congrès, donc il y aura toutes sortes d'activités pendant cette journée. Des programmes adaptés pour les enfants, vous aurez de quoi pouvoir manger sur place, de quoi louer Jésus avec une grosse soirée de louange, en tout cas un beau programme. Donc on vous invite vraiment à bloquer cette date dans votre agenda et exceptionnellement, il n'y aura pas de célébration le dimanche, le lendemain matin ici, puisqu'on veut vraiment vivre la cohésion tous ensemble avec nos frères et sœurs. Est-ce qu'il y a des gens qui se réjouissent pour ce temps de fête tous ensemble? Merci Anita et Michel là-bas au fond, et il y en a quelques-uns encore, mais on veut que ce soit un temps. Et d'ailleurs, on va prier pour ça d'ailleurs. On va prier pour que ça puisse avoir un impact sur la ville. Seigneur, on te remercie pour ce temps de célébration où tous celles et ceux qui se réclament d'être tes disciples veulent s'unir pour être porteurs d'un message différent sur notre ville. Seigneur, tu nous as invités à chercher le bien de la ville où tu nous as envoyés. Seigneur, afin que, parce que notre bonheur dépend du sien, mais parce que tu veux que nous recherchions le bonheur de notre ville en incarnant quelque chose de différent. Seigneur, on veut être cette église qui est tes pieds et tes mains en action dans un monde en souffrance. Seigneur, on veut être ta bouche qui porte la paix là où il y a la guerre. Seigneur, on veut être ces mains, Seigneur, qui pansent les blessures là où il y a des plaies. Seigneur, on veut te dire, sers-toi de nous encore. Alors que les ténèbres s'épaississent, Jésus, nous voulons être cette église peut-être de la dernière génération qui porte ton nom et qui invite les gens à fixer les regards vers toi, parce que tu es encore le seul secours solide, Seigneur. Alléluia, on bénit ton nom encore, Seigneur, pour ce que tu veux faire sur notre ville de Strasbourg. On te prie pour notre municipalité, on te prie pour les autorités. On te prie, Seigneur, pour tout ce qui va prendre place encore cette année. On te prie pour la paix dans cette ville, Seigneur. Mais aide-nous à incarner qui tu es, Jésus, et à faire une différence, Père, par la puissance de ton Saint-Esprit. Et que tous ceux qui sont d'accord avec ça disent un grand... Amen. Amen. On va laisser la place à Anne ce matin pour ce que Dieu a mis sur son cœur.
Bonjour à tous. J'étais tout attentive, je ne savais pas que c'était maintenant. Alors je vais appeler Mélodie et Mathieu s'ils veulent bien venir. Je vais leur poser une question. Alors ils sont au courant qu'ils devaient venir, mais ils ne savent pas la question. Alors ils sont tout timides. Il va se poser, non ça va, on a fini le bac, on a fini les examens, c'est bon, vous avez eu le diplôme. Alors, quelle est la plus grande question qu'un être humain puisse se poser? J'aime bien, il y en a qui rigolent. Dès que vous avez la réponse, vous me dites.
Ouais. Je dirais, qu'est-ce qu'il y a après la mort?
Ah non, mais tu vas pas dire, c'est la même. Est-ce que tu en as une autre?
Comment bien vivre sa vie?
On peut les encourager, les applaudir. Retenez bien les questions que vous avez posées. C'est important. Alors gardez bien en tête et nous allons voir dans la Bible, dans Luc. Je ne sais pas si vous connaissez Luc. Luc, il est médecin de formation. Et on pense qu'il est sans doute d'origine grecque. Et c'était un compagnon de Paul, l'apôtre Paul, et un croyant profondément engagé. Il a mené une enquête auprès de tous les témoins oculaires afin de rédiger le récit ordonné et fiable de la vie de Jésus. Et son évangile a pour but d'encourager ses lecteurs, d'affermir leur foi et de montrer que le salut est offert par Jésus, s'adresse à tous. Alors ce matin, on va ouvrir nos Bibles dans Luc 18, le verset 1 à 8. Je pense que vous le connaissez, c'est la parabole de la veuve et du juge inique. Et là, Jésus va nous surprendre par une question. Et le titre du message, c'est « L'ultime question ». Tout commence par une histoire qui nous parle. Et on le lit dans Luc 18, 1 à 3, pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment, sans jamais se décourager. Jésus raconta à ses disciples la parabole suivante. « dans un village, dans un certain village, dans une certaine ville, pardon, il y avait un juge qui ne révérait pas Dieu et n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi, dans cette même ville, une veuve qui venait constamment le trouver pour lui dire « Défends mon droit contre celui qui m'attaque ». On voit là que dès les premiers versets, Jésus dévoile le but de ce qu'il va annoncer. La persévérance dans la prière sans relâche. Jésus utilise une parabole. Alors la parabole, c'est un récit imagé qui transporte une vérité spirituelle. Et Jésus les utilise pour toucher les cœurs. Il les utilise pour stimuler la réflexion et transmettre des vérités profondes, de manière vivante et mémorable. Et il utilise souvent des faits quotidiens, de la vie quotidienne, pour donner un enseignement aux personnes qui les écoutent. Et l'histoire se déroule dans une certaine ville. Il n'est pas précisé la ville, donc ça n'a pas forcément d'importance. Mais là, dans cette ville, il se trouve un juge. Et quand j'ai regardé la vocation d'un juge, en fait, en Israël, les juges étaient des prêtres lévites, assistés des anciens sages du peuple. Ils étaient chargés de rendre la justice conformément à la loi de Moïse. Et ils devaient être justes et intègres, arbitrant des affaires auprès des portes de la ville. Et en cas de litige, qui était un peu plus complexe, ils portaient l'affaire devant les autorités religieuses à Jérusalem. Et ça, on peut le lire dans Deutéronome, au chapitre 16. Et la loi insistait sur le fait que les juges devaient craindre Dieu. Ils devaient agir avec droiture. Ils devaient protéger les opprimés et rendre des décisions impartiales. Toute injustice ou toute corruption était sévèrement condamnée. Car la justice devait refléter la fidélité à Dieu et garantir l'équité dans la société. Mais là, Jésus, dans cette histoire, nous dit que le juge ne révérait pas Dieu. Il n'avait d'égard pour personne. Cela revient à dire que il suivait aucune règle et qu'il ne prêtait pas attention aux autres. Il n'en avait que pour sa propre personne, pour lui, ses intérêts. Et c'est ce qui arrive quand on ne veut vivre sans foi ni loi et qu'on veut faire ce que bon nous semble. Donc, il y avait un juge. Mais il y avait aussi une veuve. Et dans la société biblique, la veuve, elle occupait une position particulièrement vulnérable et fragile. La perte de son mari signifiait pour elle non seulement la disparition de son protecteur légal et social, mais entraînait également souvent une précarité économique très importante. Sans mari pour subvenir à ses besoins, pour gérer le quotidien, pour gérer les affaires familiales, elle pouvait se retrouver démunie, incapable d'assurer seule la nourriture, l'éducation des enfants et tout ce qui va avec. Et certaines veuves à cette époque-là pouvaient être jeunes parce qu'elles se mariaient entre 13 et 14 ans. Et les maris décédaient guère après. Donc, elles se retrouvaient vite confrontées à toutes ces responsabilités qu'elles avaient, matériel, nourriture et l'éducation des enfants. Et la Bible souligne souvent, à plusieurs reprises, cette fragilité en associant régulièrement les veuves et les orphelins, qui eux aussi dépendent de la protection d'autrui pour survivre. Cette association montre combien leur situation sociale était vraiment délicate et combien elles dépendaient de l'attention et de la protection de la communauté, de ceux qui l'entouraient. Et en plus, dans le contexte patriarcal de l'époque, leur statut restait faible. Elles n'avaient ni autorité politique, ni indépendance économique. Et elles dépendaient vraiment de la charité ou de l'intervention d'hommes influents pour obtenir justice et protection. Alors, le juge d'Israël, chargé normalement de rendre justice selon la loi de Moïse, on pourrait le comparer aujourd'hui à un équivalent dans nos tribunaux modernes qui protègent les droits et veillent l'équité. Et on pourrait se dire, aujourd'hui, je ne me sens pas concernée par ce personnage. Mais si on regarde dans d'autres sphères, comme la sphère de la famille, Ce rôle de discernement reviendrait aux parents, reviendrait aux aînés, qui ont cela là pour protéger, pour accompagner, qui prennent des décisions justes pour guider et protéger. Si on regarde dans une autre sphère, la sphère de l'Église, il se retrouve chez les leaders spirituels, responsables à maintenir l'intégrité et la cohésion selon les principes moraux. On peut regarder dans le milieu professionnel aussi ceux qui ont une influence, les directeurs, les DRH, je sais qu'il y en a et je sais que ce n'est pas facile. On peut s'identifier à ce juge. Mais la veuve, aujourd'hui la veuve, elle peut faire penser, c'est sûr, à toutes les personnes vulnérables ou marginalisées dans notre société. Il peut s'agir de femmes seules avec leurs enfants, ça arrive, de personnes âgées, isolées, ou encore de familles précarisées vivant dans la pauvreté. Et comme la veuve de, comme les veuves de l'Antiquité, ces personnes dépendent souvent de l'aide sociale, de la solidarité familiale ou communautaire et restent exposées à l'exclusion ou à l'indifférence. La considération de ces populations aujourd'hui comme celle des veuves de l'époque biblique reste un indicateur important de la justice et de la solidarité dans la société. Alors voilà. Voilà une première question qui peut se poser à nous ce matin. À quel personnage je pourrais ressembler ? Dans cette histoire, quel est le personnage qui me correspond le mieux ? Est-ce que c'est le juge ? Est-ce que c'est la veuve ? Une histoire qui nous parle. Et on pourrait se dire facilement, non, moi j'aime bien m'identifier à la veuve, la pauvre, celle qui a besoin, mais nous pouvons facilement nous identifier soit au juge, soit à la veuve. Soit nous sommes dans cette position de puissance, d'autorité, soit dans celle de la veuve, seule, démunie, face à une injustice. Et la veuve, n'ayant pas de représentant, elle se retrouve seule avec un adversaire qui lui recherche des problèmes. Alors, on ne connaît pas cette personne qui lui cherche des problèmes. Mais apparemment, ce serait un problème d'héritage ou d'argent. Et elle fait donc appel à ce juge pour qu'il plaide sa cause. D'un côté, on voit un juge puissant, indifférent à Dieu et aux hommes. Et de l'autre, une pauvre veuve, vulnérable et sans défense. Elle réclame justice, mais le juge refuse, sans raison apparente. Peut-être qu'il préférait favoriser son adversaire qui pouvait lui donner des pots de vin, qui pouvait le soudoyer. Et là, on pourrait réagir avec indignation ou fataliste et se dire, voilà, les puissants de toute façon gagnent toujours. Les pauvres subissent l'injustice. Mais qu'en sera-t-il vraiment du dénouement de la situation ? Alors on va lire la suite et certainement que vous la connaissez, Luc 18, versets 4 à 7. Pendant longtemps, il s'y refusa. Mais à la longue, il finit par se dire « J'ai beau ne pas révérer Dieu et me moquer de ce que peuvent penser les hommes, cette veuve m'ennuie quand même. C'est pourquoi je vais défendre son droit pour qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser les oreilles. » Le Seigneur ajouta « Notez bien comment ce mauvais juge a réagi. Alors pouvez-vous supposer que Dieu ne défendrait pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit, même s'il tarde à les écouter et à leur venir en aide. Une confiance, une foi tenace, une confiance tenace. Ce juge qui est insensible aux arguments moraux ou spirituels, qui ne cherche à plaire aux autres face à l'insistance de cette veuve, finit par céder. Et Jésus veut que ses disciples retiennent ici un principe important, la persévérance dans la prière et la certitude que Dieu rendra justice à ses enfants. Et dans ce passage, il y a trois points intéressants. Avec une confiance, une foi tenace de la veuve, Luc précise qu'il y avait aussi une veuve qui venait constamment le trouver. C'est au verset 3. Le mot grec « erkomē » à l'imparfait exprime une action répétée. Elle venait encore et encore et encore et encore assiégeant littéralement le tribunal. Elle devait faire des va-et-vient et des retournées et repartir. Au verset 5, le juge avoue « Cette veuve m'ennuie. Elle m'ennuie. Elle me fatigue. » et crains qu'elle ne veuille me casser les oreilles. Me casser les oreilles, je ne sais pas comment on peut les casser, mais son insistance est venue comme une pression incessante. Elle n'agissait pas pour une mauvaise cause. La loi protégeait spécialement les veuves. Et on peut le lire dans Exode 22, dans Deutéronome 10. Elle réclamait qu'une justice légitime. On ignore combien de temps dura cette lutte. Mais le texte parle d'un refus prolongé au verset 4. Face à refus sur refus, elle revenait. Elle revenait à la charge. C'était un bras de fer entre une femme vulnérable mais déterminée et un homme puissant mais obstiné. Sa persévérance était vitale. Elle savait que sa cause méritait d'être entendue et rien ne pouvait l'arrêter. Elle avait cette confiance tenace, cette foi tenace. Et je me rappelle d'une maman, une amie à ma maman, qui a eu un enfant avec un trouble autistique. Et elle se dit, ça va être difficile dans cette vie, dans cette société, comment je vais faire ? Elle se sentait démunie et là elle a dit, mais je veux que mon enfant ait accès à la scolarité. Je veux qu'il apprenne à lire, je veux qu'il apprenne à écrire, je veux qu'il fasse des études. Et donc elle est allée demander, elle avait des droits au AESH, c'est des personnes qui accompagnent pendant les études. Et il a eu cet accompagnement pendant quelques mois, mais après plus rien. Et elle refait encore des démarches pour demander ce qu'elle avait droit pour son enfant. Et elle n'avait pas pu l'avoir. Mais elle n'a pas baissé les bras, elle a persévéré. Elle est allée même jusqu'à arrêter son travail pour accompagner son enfant pour qu'il ait une scolarité. Elle s'est acharnée. Elle a eu cette confiance tenace que son enfant pouvait avoir accès à la scolarité et pouvait avoir un métier. Aujourd'hui, il a 18 ans. Aujourd'hui, il a un métier. Alors certes, avec sa particularité, mais il arrive à travailler. Il arrive à s'intégrer dans la société. Parce que cette maman a été tenace. Elle est allée jusqu'au bout. Elle l'a accompagnée. Une confiance tenace. Une confiance tenace qui amène le juge à capituler. Amène le juge à capituler. Ce juge ne cède pas par compassion, ni par un sursaut moral. Ça y est, oulala, la pauvre, elle est dans le besoin, je vais l'aider. Il capitule uniquement pour avoir la paix. Basta. Je pense que certains parents ont été aiguisés avec les enfants, peut-être autres que les enfants, mais cette ténacité. Et là, en réalité, il agit par pur intérêt personnel, éviter que sa réputation ne soit ternie ou que la situation ne devienne embarrassante. L'historien juif Joseph et d'autres textes de l'époque montrent que les juges pouvaient craindre le bouche à oreille. Vous connaissez dans les petits villages ? Si vous voulez que quelque chose ne se sache pas, allez voir la personne qui parle le plus. Ah, tu sais, la voisine. Je suis née dans un village assez petit. Et c'est ce qui se passe. On sait tout. Et une veuve qui racontait publiquement son injustice pouvait entacher l'image, même s'il n'avait pas de scrupules religieux. Et là, en fait, ici, la pensée du juge, c'est « elle va finir par me faire du tort. Il faut que je réagisse. » Publius Syrus, un auteur latin du 1er siècle avant Jésus-Christ, a dit « ce que la justice ne fait pas par amour, elle le fait parfois par peur de la honte. » Et c'est ce qui passe là. Je me rappelle mon entrée en sixième. Il y a toujours des passages. Quand on arrive au CP, en primaire, puis après quand on arrive au collège. Et donc là, je rentre en sixième, et il y a toujours les troisièmes, là, les plus grands, et puis il y en a qui sont impressionnants. Et donc il y a un garçon qui, je ne sais pas pour quelle raison, m'a craché sur mon sac. Il a vraiment craché sur mon sac. Et là, il m'a humilié devant tout le monde. Et là, je me dis, oh là là, qu'est-ce que je vais faire ? Et on était en permanence, en études, et il y avait le surveillant. Et là, je vais voir le surveillant. Je vais dire, ok, je vais aller demander. Je parle au surveillant. Il me dit, oui. Bon, j'ai vu qu'il est occupé, j'ai attendu 5 minutes, je reviens. Je vois qu'il parlait plus, je retourne le retourner, je fais oui, mais regarde, il m'a craché sur mon sac. Enfin, c'est, regardez, pardon, je vais pas le dire, c'était pas mon pote. Je regardais, il a craché sur mon sac. Oui, non, mais c'est bon. T'es... J'insiste, je reviens encore une fois. Je dis, c'est pas juste, il m'humilie devant tout le monde, je vais pas rester comme ça. Je retourne, il fait rien. Je retourne, je m'assois à ma place et puis d'un coup, je dis bon, ok, je me lève. Je me lève et je pars. Et il me regarde, il me dit, tu vas où? J'ai dit, ben, je vais voir la direction puisque vous réagissez pas. Moi, je veux pas me laisser faire. Et là, par peur des représailles, il a dit « Ok, c'est bon. Le garçon s'appelait Mathieu. Il dit « Mathieu, tu nettoies le sac de la jeune fille. J'ai pas lâché. J'ai pas lâché. » Et il a capitulé par peur de se faire reprendre par la direction. Et là, c'était la même chose pour le juge qui capitule face à une persévérance. Ce détail est important pour la suite. Si même un homme égoïste et injuste finit par agir à cause de l'insistance, combien plus Dieu agira, lui qui est parfaitement juste et bon. Et on voit une confiance tenace, une foi tenace. Dieu ne ferait-il pas justice? Dieu, le maître de l'univers, le créateur, ce Dieu bon, rempli d'amour. Jésus, là, met en contraste deux réalités. La veuve, elle est pauvre, elle est sans défense. Sans réseau, face à un juge puissant et insensible. Et nous, si on s'intègre dans cette histoire, le croyant, la personne qui accepte Dieu dans sa vie, qui reconnaît que Jésus est mort et ressuscité, qu'il est mort pour ses péchés, un enfant de Dieu, aimé et choisi, face à un Père parfaitement céleste. Dieu ne ferait-il pas justice à son enfant ? La situation de la veuve semblait complètement désespérée. Elle n'avait ni argent, ni l'influence, ni un mari pour plaider sa cause. Et dans le monde antique, c'était être presque invisible, inexistant. Et pourtant, elle a obtenu gain de cause. Alors Jésus pose une question rhétorique. Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crie à lui jour et nuit? Ici, faire justice signifie défendre, signifie protéger, rétablir ce qui est droit. Il ne s'agit pas simplement ou seulement de punir le mal, mais aussi de restaurer ce qui a été brisé. Je me suis demandé quand même, mais est-ce que c'est rabaissant que Dieu se compare quand même à ce juge, parce que ce juge ne craignait pas Dieu. Et non, parce que la comparaison n'est pas d'égalité, mais de contraste. C'est l'argument dû à plus forte raison. Si un juge mauvais, à cause de la persévérance du inconnu, agit, à plus forte raison, un Dieu bon agira pour ses enfants aimés. Dieu n'est pas comme ce juge. Dieu n'est pas comme ce juge. Il n'agit pas à contre-cœur. Oh punaise, Anne, c'est bon, tu m'as... Ouh, j'ai entendu tes prières, allez, c'est bon, je vais te répondre. Non, il n'est pas comme ça. Il n'agit pas à contre-cœur. Il n'agit pas pour sauver les apparences. Il agit par amour. Il agit avec joie pour ses enfants, pour ses élus. Et au travers de cette parabole, Jésus nous demande de ne pas lâcher, de faire comme la veuve face au juge. Et ce matin, il souhaite encore nous encourager à ne pas abandonner, car notre ténacité entraînera des conséquences dans le futur. Alors voici la deuxième question. Voici une deuxième question qui nous interpelle. Face à la situation injuste que je vis actuellement, ou au silence de Dieu, est-ce que je choisis de persévérer ou est-ce que je choisis d'abandonner? On a vu qu'une confiance, une foi tenace, persévérante, insiste, ne lâche pas, continue. Que cette foi et cette confiance tenace et persévérante amène un juge inique à capituler. Et nous rappelons que Dieu, qui est bon et merveilleux, agira pour ses enfants. Alors, face à les situations injustes que je vis, est-ce que je vais abandonner ou est-ce que je vais persévérer? On continue la lecture dans Luc 18, le verset 8. Moi, je vous dis que c'est par une intervention soudaine qu'il défendra leurs droits. Seulement, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore sur la terre des hommes qui ont confiance en lui? Dans d'autres versions, c'est des hommes qui ont foi en lui. Troisième point, une question qui ne s'évite pas. Une question qui ne s'évite pas. Cette question, elle tombe un peu comme un coup de tonnerre à la fin de la parabole. Après avoir assuré que Dieu défend avec justice ses enfants, Jésus pose une interrogation qui peut nous laisser sans voix. Trouvera-t-il la foi? Trouvera-t-il la foi? Et pendant que je travaillais sur ce message, les questions me sont venues, mais pourquoi Jésus pose-t-il cette question? Il connaît la réponse. Pourquoi il la pose? Jésus connaît toutes choses. Il connaît ce qui se passe actuellement dans nos cœurs, nos pensées, si on est ici ou ailleurs. Il sait aussi ce qui remplira le monde, ce qui remplit le monde à la fin des temps. Alors pourquoi la poser? Jésus n'est pas en train de faire un sondage. Levez la main ceux qui auront la foi. Oh, ou baissez-la si vous ne l'aurez pas. Mais c'est une question de conscience. Cette question, ce n'est pas pour lui qu'il la pose. Mais c'est pour nous. C'est pour toi. C'est pour moi. Cette question agit un peu comme un miroir. Elle nous force quelque part à se regarder face à face et à se la poser, à s'interroger. Cette question, elle vise notre cœur. Cette question, elle vise notre persévérance, notre fidélité. Cette question ne cherche pas une réponse rapide. Mais elle veut que nous nous laissions interpeller profondément. Frédéric Bruce, un bibliste et théologien, souligne que cette question reste volontairement ouverte. Elle ne se ferme pas avec un oui ou un non. Sa réponse dépend de notre fidélité dans le temps, aujourd'hui. Jésus ne parle pas ici d'une foi générale dans le monde, mais de la foi dont il vient de donner l'exemple dans la parabole. Cette foi persévérante qui continue de crier à Dieu malgré le silence apparent. Alors que cherche-t-il par cette question? Il veut nous préparer à deux réalités. Dieu agira, c'est sûr. Il agira rapidement au moment fixé. Il y a un temps pour tout et sa justice n'est pas en doute. Et nous devons tenir bon jusqu'à son intervention. Et c'est là que tout se joue. Un jour, Jésus reviendra pour récupérer tous ses enfants. Trouvera-t-il la foi? Ernst Modersohn remarque, c'est un pasteur allemand, pardon, protestant, « Jésus ne s'inquiète pas de la volonté de Dieu à secourir ses élus. » Il le sait, c'est acquis. Il sait que Dieu, quand il fait une promesse, il l'accomplit. Mais il s'inquiète de notre persévérance à crier à lui jour et nuit. La parabole nous montre une veuve qui, malgré sa situation, malgré ses conditions, malgré le juge insensible, toutes les chances ne sont pas de son côté. Humainement, ce serait l'échec assuré. Mais elle continue à réclamer justice. Et Jésus nous demande, et toi? Et vous, l'Église, avez-vous cette même ténacité lorsque l'attente se fera longue? Luc place cette question juste après son enseignement sur le retour du Fils de l'homme, dans le chapitre 17, juste avant, au verset 22-37. Et Jésus y décrit un monde une société semblable à celui de Noé et de Lot. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, où les gens mangeaient, buvaient, menaient leur vie comme bon leur semblait. Ils étaient distraits par le quotidien. Ils se rappelaient plus. Ils étaient inconscients du jugement qui y approche. Et c'est dans ce contexte que sa question prend vraiment tout son poids, toute son importance. Vivrons-nous comme si son retour était certain et imminent ou comme si nous avions tout le temps? Et moi, c'est vrai que ça m'avait souvent interpellée quand j'étais petite. On apprend à l'école du dimanche et tout ça, Jésus va revenir et voilà, j'ai un certain nombre d'années et je me dis, c'est toujours pas arrivé. Et à une époque, parce qu'on dit que vers la fin des temps, on oubliera, et j'avais marqué sur mon bureau, attention, Jésus va revenir. Attention, comme ça j'étais sûre de pas oublier et de me dire, attention, prépare-toi. Au travers de cette question, Jésus veut nous montrer que c'est important de tenir bon et de ne pas lâcher. Parce qu'il va revenir, c'est sûr. Et c'est tellement une bonne nouvelle. Et il a cette inquiétude sur la disposition de nos cœurs. Il a ce souci sur la disposition de nos cœurs. Jésus sait que le danger, ce n'est pas que Dieu oublie ses promesses, mais que nous perdions l'attente ardente de leur accomplissement. Le monde qui nous entoure cherche parfois à étouffer notre espérance. Les épreuves prolongées peuvent nous décourager. Seigneur, c'est quand que tu interviens? Là, je ne peux plus tenir. Je suis fatiguée. L'apparente absence de réponse peut nous faire croire que Dieu ne reviendra pas. Ça fait tellement d'années qu'on m'en parle. Et c'est là que la question de Jésus frappe. Trouva-t-il encore la foi? Et le mot grec pour la foi est précédé d'un article défini, ten pisten. Ce n'est pas n'importe quelle foi. C'est la foi dont il parle dans cette parabole. La foi tenace. La foi confiante, la foi persévérante, la foi qui ne lâche pas, même si Dieu semble tarder. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un chat qui s'agrippe à un rideau, de peur de tomber. Il s'agrippe vraiment fort, il a les griffes, c'est cette foi tenace, si on peut l'imager comme ça. Et Jésus ne s'illusionne pas sur la nature humaine. Il ne croit pas forcément à une progression, amélioration, que tout le monde va lui appartenir. Il espère. Il sait trop bien combien les tendances mauvaises de notre cœur sont là et peuvent parfois gagner nos cœurs. C'est pourquoi il nous interpelle. Non pas pour nous condamner, non pas pour nous juger, mais parce que c'est un Dieu miséricordieux, bienveillant. C'est une question qui traverse les siècles jusqu'à nous. Et cette question n'était pas seulement pour les disciples qui étaient avec Jésus, n'était pas seulement pour les personnes qui assistaient. Elle résonne aujourd'hui avec force. Elle ne demande pas si le monde aura-t-il la foi, mais toi, auras-tu encore cette foi? Auras-tu cette foi lorsque je reviendrai? Est-ce qu'on va continuer à prier si la réponse tarde? Est-ce qu'on va garder cette espérance vivante, même dans un monde distrait, même dans un monde indifférent? Allons-nous résister, tenir face à la tentation, persévérer? Cette question est posée là. Jésus nous laisse une ultime question. Je vais demander à l'équipe de louange de monter. La plus importante de toutes, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore cette foi dans ton cœur, dans mon cœur? Trouvera-t-il cette foi? La veuve de la parabole ne s'est pas laissée décourager par le silence. Elle ne s'est pas laissée décourager par les refus. Elle savait que sa cause était juste. elle a persévéré. Nous aussi, nous avons un Dieu qui est juste et fidèle. Et Jésus nous avertit comme un bon père, comme une personne bienveillante, compatissante, pleine d'amour. Il nous avertit, il n'est pas là à nous condamner, mais il est là avec plein de miséricorde à nous avertir. L'attente, elle peut user, elle peut être longue. L'attente pourra peut-être user notre foi. Mais restez vigilants. Persévérez, continuez. Sa question est un appel à la persévérance. Sa question est un appel à rester actif, à veiller, à prier. Tiens bon, continue de prier. Ce matin encore, ne perds pas courage. Ne laisse pas ton cœur s'endormir. Ne baisse pas les bras. Il est un peu comme un supporter et dire « Vas-y, continue. Je suis là avec toi. Je suis à tes côtés. » Regarde la veuve. Regarde son insistance. Regarde sa persévérance. Et si un homme mauvais comme il est, le juge, a pu être favorable, moi qui suis ton père, qui suis ton créateur, je ne te laisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Je t'accompagnerai, je serai là. Mais quand le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il va retrouver la foi, cette persévérance, cette confiance, cette ténacité? Des fois, le quotidien défile à une allure. Pouh! Souvent, je dis en rigolant, je vais fermer les yeux, je vais me retrouver grand-mère demain, dans pas longtemps. Mais ça passe tellement vite. Et on rentre souvent dans cet engrenage. Et si... ce matin et durant les jours suivants, l'ultime question puisse rester gravée dans vos cœurs. Et de dire, mais Seigneur, je me la pose, cette ultime question. Est-ce que quand tu vas revenir, tu vas trouver cette foi, cette persévérance, cette ténacité dans mon cœur? Parce que oui, c'est pas tous les jours facile, mais je veux continuer. Je veux persévérer. Alors que Dieu vraiment nous vienne en aide. Encore ce matin, encore aujourd'hui, pour que nous puissions être comme cette veuve qui n'a pas lâché et qui Dieu a béni, a répondu, qui ce juge a répondu et que Dieu bénira aussi chacun d'entre nous. Amen. Seigneur, je veux encore te remercier, Père, pour ta parole. Je veux te remercier, Seigneur, parce que tu reprends, tu enseignes, tu le fais avec amour, avec bienveillance, parce que, Seigneur, le désir de ton cœur, Seigneur, c'est que le plus grand nombre s'approche et se tourne vers toi. Seigneur, mon Dieu, c'est que Père, on ne lâche pas, parce que tu connais la situation, tu connais nos situations, tu connais nos vies, tu connais nos défis de chaque jour, et tu es là vraiment comme un père qui veut supporter son enfant, un père qui veut l'encourager, qui veut l'accompagner. Tu es là en disant n'abandonne pas, persévère, continue. Et à nous poser cette question, je te la pose pour t'interpeller, pour, Seigneur mon Dieu, interpeller mon cœur, interpeller nos cœurs à dire, mais est-ce que je vais trouver la foi parce que je veux que tu tiennes? Parce que j'ai tout accompli à la croix. Alors Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci de nous accompagner. Merci pour ta grande bonté, mon Dieu. À toi soit toute la gloire, Père. Amen.
Ta bonté ne faillit jamais. Jamais ne faillira. Ta bonté ne faillit jamais. Jamais ne faillira. À tes pieds, je viens prosterner, je m'abandonne à toi. Ta bonté ne faillit jamais. Dieu est bon.
Est-ce qu'on peut applaudir ce Dieu qui est bon, qui ne nous abandonne pas ? Alors que notre célébration touche à sa fin, si tu as été interpellé, puis que comme cette veuve, tu vis ce challenge ce matin, puis que tu as juste besoin d'être encouragé, on a toute une équipe d'écoute et prière qui va se tenir sur ma gauche là, dans un instant. Donc si tu as été encouragé ou que tu as envie d'aller plus loin avec Dieu, peut-être de l'expérimenter pour une première fois, n'hésite pas à aller sur le devant, il y a une équipe qui va se tenir là pour t'écouter, pour échanger, puis se tenir avec toi. Et pour les autres qui vont bien, ben, vous avez encore tout le temps d'échanger dans le couloir, il fait beau, on est heureux d'être ensemble ce matin. Alors on salue aussi ceux qui étaient avec nous sur Internet, et on vous souhaite un bon dimanche.